elle serait restée coincée dans sa gorge, ou bien des œufs et que ses œufs soient pourris. Donc évitez de prendre un rendez-vous le vendredi avec son patron, ça vous évite ce genre de problème, ou pendant le carême, puisque les mêmes aliments peuvent être présents à la cantine. Voilà, donc on progresse comme ça tout doucement. Alors c'est assez marrant, et je pense que je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu des légers malentendus par rapport au titre, puisque c'est l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. Et moi je l'ai trouvé chez Gibert, devant la caisse, et c'était avec d'autres trucs, genre 10 jours pour rire,
Windows pour les nuls.
Windows pour les nuls. Si, si. Et donc du coup, tu vois, je pense que tu t'attends à voir alors petit 1.
Soyez ferme.
Soyez ferme. Petit 2, soyez à l'aise dans vos chaussures. Petit 3, toquez fermement.
Mais alors, comment ça marche son bouquin? Parce que du coup, comment on peut avoir une multiplicité de choix dans une fonction, dans une vision linéaire?
Eh ben, c'est très bizarre, puisque du coup, pour lui, ça devait être un livre quasiment illisible, mais finalement qui est très lisible, sauf qu'en effet, enfin, t'as une espèce de... Si, si. Alors oui, il y a un truc qui est assez difficile, et je m'en rends compte là en le lisant à voix haute, c'est qu'il n'y a aucune ponctuation.
Ouais, comme elles sont...
Quand même.
Mais tu as évité ma question, c'est-à-dire que comment les multiplicités de choix viennent s'ajouter linéairement?
Eh ben... Il les met les uns à la suite des autres. Il
ah, d'accord.
Vois-tu? C'est ou bien... Et à chaque fois, ça sera une nouvelle condition se rajoute.
Mais du coup, la condition de départ pour les deux nouvelles conditions, c'est laquelle d'avant?
Bon, ouais. Alors Ben, pour t'aider dans la lecture, sinon, au début de ce livre, il y a un petit organigramme qui vous résume la situation. Donc ça commence, est-il dans son bureau? Oui, non. Frapper? Oui, non. Guetter un retour dans le couloir? Ta-ta-ta-ta-ta. Entrez, décontractez-vous. Ensuite, exposer le problème. Bon, bref.
Et d'accord, mais du coup, il y a un choix à chaque fois qui est fait.
Oui, c'est ça.
Anne ? Donc, il y a quand même un choix qui est fait sur les deux possibilités qui ont été évoquées auparavant.
Oui.
Ouais, mais comme c'est cyclique.
Mais en fait, à chaque fois, Pérec expose plutôt la réponse négative.
Il l'exclut pour te laisser davantage de chances d'avoir ton augmentation.
D'accord, il garde la fonction. Voilà. Le prima au positif, donc.
Exact.
Très bien.
Et quand même, petit à petit,
c'est une méthode 100%, en fait.
Et voilà, exact.
100% de réussite.
Voilà, si tu as le oui,
à la fin, il arrive quand même à être dans le bureau. L'augmentation, on ne sait pas s'il l'aura, mais il est quand même face à lui.
Mais c'est pas possible, ça devient une habitude, là. Ça fait deux fois, là.
Alors, tout à l'heure, quand on parlera de Louise Michel, on te dira la fin.
Ouais, bien fait. Parce que là, ça fait deux fois.
Il n'y a pas du tout de suspense. C'est pas du tout grave.
Je sais pas ce qu'il te faut.
Quand moi j'ai un titre comme ça, quand j'ai un bouquin dans les mains avec un titre pareil, non, mais j'ai avec toutes les possibilités, avec ce suspense ces différentes conditions.
C'est vraiment très. Enfin, moi je trouve ça très amusant à lire. Et en même
temps. En plus, tu n'as payé que 12 euros.
Et oui.
Pour une augmentation de. On ne sait pas.
Non, c'est marrant ça, parce que ça aussi, il a différentes stratégies. Soit en demander une très forte.
Ouais.
Tu vois, alors pour comme ça pour obtenir une petite, et puis à la fin, ce qu'il lui demande, enfin, à un moment, ce qu'il lui demande, c'est une augmentation finalement assez ridicule.
Donc là, au cas où on n'aurait pas complètement la fin, donc on sait qu'il est dans le mur.
Il est quand même question de kidnapping, de chantage,
oui,
de coffre
tout
fort.
À fait. Bah oui, à un moment, ça devient un petit peu plus ardu.
D'accord.
Il entrevoit
des possibilités
un peu plus dures contre son chef de service. Non, mais ce qui est marrant en même temps, en espèce de sous-texte, on peut dire ça, je sais pas si ça se dit, mais c'est que c'est difficile. Ça dit que c'est quand même difficile de demander une augmentation. Que souvent c'est quelque chose, que c'est quelque chose qu'on repousse, où on s'imagine différents scénarios, on se dit ah oui bah s'il me dit ça je vais lui dire ça, et où finalement les choses ne se passent jamais vraiment comme on les a imaginées, et qu'en même temps on a assez peur et que c'est un moment voilà qu'on repousse, qu'on retarde, où on s'invente des espèces de fausses raisons pour ne pas y aller quoi. Dire à un moment, il se dit oui, mais peut-être que ces filles ont la rougeole. Alors, si ces filles ont la rougeole, je veux pas l'attraper, donc je me casse. Enfin, voilà,
d'accord,
mais c'est très drôle.
Bon, Un autre film qui est drôle, c'est... Enfin, un film, pardon, qui est drôle, c'était... Ah oui, excuse-moi, c'est quoi l'éditeur de ce livre ?
C'est Hachette. Un petit éditeur indépendant. Mais sur du papier bien recyclable. Hein. D'accord. Ça, ils le disent.
Ah, quand même.
Ouais.
Est-ce que les chefs de service de Hachette donnent facilement des augmentations à tous leurs petits larbins ? Ça, nous ne savons pas.
En fait, l'organigramme est sérieux.
C'est un vrai organigramme.
Ouais. Vraiment.
Oui, ce qui est une postface.
C'est un monsieur de la maison des sciences de l'homme qui l'a réalisé.
Voilà.
C'est pas lui en fait.
Non, l'organigramme, c'est pas lui.
Il a travaillé à partir de l'organigramme.
Ça. C'était l'idée. Sa contrainte, c'était de mettre en écriture un organigramme.
Ça rappelle un peu dans la même mouvance parce que Perec faisait partie de l'Oulipo. Ouais. Italo Calvino aussi qui avait fait un bouquin, ouais. Le Château des Destins Croisés, à partir d'un jeu de tarot. Ouais. Aussi. Donc, différentes combinaisons de tarot de Marseille qui donnent différentes histoires. Voilà.
Voilà.
Donc, après un livre édité par Hachette, un film produit par Studio Canal.
Produit par Mathieu Kassovitz.
Produit par Mathieu Kassovitz.
Ça y est, c'est des évidents. Ouais. Moi, je préfère quand même quand il produit que quand il réalise.
Bah oui.
Bah moi, je préférais quand il était comédien.
Je préfère quand il joue là.
Il joue très bien.
Moi, je trouve que c'est son grand drame de sa vie.
Babylon AD là. Bah non, je sais pas, tout le monde a l'air tellement.
Je sais pas ce
que ça donne. Ouais, je sais pas.
D'après Boris Dantec là.
Ouais. Mais je crois,
je crois que lui-même il est pas content.
Non, mais il a été élu plus grand nanar de l'année 2008 par contre.
Ah, pas mal.
Il a eu la grande palme.
Il avait celui de je sais pas quelle année là avec Assassin. Mais... Donc, Louise, on revient à Louise Michel s'il vous plaît.
Oui, s'il vous plaît. Alors, Louise Michel, grande révolutionnaire.
N'empêche qu'elle est citée, hein.
Tout à fait. Louise Michel, 1830.
Donc, un film de Gustave Carverne et Benoît Delépine, pardon. Je dis dans ce sens parce qu'on dit toujours Benoît Delépine et Gustave Carverne alors qu'il n'y a pas de raison. L'orthographe, ouais, c'est ça. Par ordre alphabétique. Donc, Louise Michel, alors il ne s'agit pas effectivement de Louise Michel, la fameuse qui participa jadis à la Commune, mais de deux personnages qui s'appellent l'un Louise, l'autre Michel. Ce qui. Et Louise est travailleuse, enfin est ouvrière, pardon, dans une usine de.
Ouais,
je sais même pas trop quoi.
Travailleuse, hein.
Je sais pas. Ouais.
L'ouvrier en fait. On commence déjà à te révéler la totalité du film.
Voilà.
Donc en fait, ce n'est pas une ouvrière, c'est un ouvrier.
Oui, enfin c'est voilà. Donc ouvrière, laissez-moi parler. Une ouvrière dans une usine. Vous avez retenu de quelle usine il s'agissait ? De Cintre ou je sais plus quoi.
Oui, c'est une
fabrique des nanins.
Des nanins.
C'est une spéciale dédicace à Rebecca si tu nous écoutes.
C'est Nanin et ça, je crois.
Nanin International.
International.
Des doudous quoi.
Et donc cette usine, cette usine un jour délocalise mais sans avertir les ouvriers. Et du coup les ouvrières se retrouvent à pas savoir ensemble au bar. Il y a une scène assez chouette où elles se retrouvent ensemble au bar et puis ils disent bon ben qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Ce qui serait pas mal c'est qu'on mette nos indemnités en commun pour faire un truc et tout. Il y en a une qui dit ah on pourrait faire un calendrier où on serait tout à poil, puis tout le monde dit non. Et il y en a une qui propose, donc Louise d'ailleurs, qui propose de tuer le patron. Et pour cela, elles vont faire appel à Michel, qui est un agent de sécurité à son propre compte, je crois d'ailleurs, et qui c'est ça, non ?
Oui, oui.
Et qui est complètement névrosé, enfin, comment on dit, obsédé par la sécurité, vu qu'il fabrique lui-même ses flingues pour pas qu'il y ait de traces quand il fait. Là, enfin, c'est assez dingue. Et ces deux-là donc vont faire une espèce de périple pour essayer de trouver le patron de leur usine, ce qui n'est pas simple puisque à notre époque donc les patrons sont multiples et on a beau remonter, on trouve toujours quelqu'un au-dessus. Voilà, c'est un peu le principe du film. Voilà. J'ai bien.
Ça t'a fait quand même de sacrés raccourcis, je trouve.
Oui. Bah vas-y, tu vas complexifier tout ça.
Non, je peux rien rajouter de plus.
Ah, tu vois.
Non, mais j'ai pas trop aimé le film.
En fait, moi non plus. J'ai trouvé ça. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis resté un peu à l'entrée, quoi. Je suis pas trop rentré dedans.
Non, mais ça commence très bien.
Voilà, je trouve que ça commence plutôt bien. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'ils aient recours à des acteurs qui sont pas professionnels apparemment. Justement, cette équipe d'ouvrières, je trouve plutôt sympathique.
Oui, bon.
Bon et
mais c'est plutôt anecdotique.
Je sais, mais j'aime bien. On les revoit un peu à la fin et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais.
Oui.
Ouais. Et Et disons que je trouve que ça reprend un peu le principe de leur premier film qui s'appelle Altra, donc où il y a deux mecs qui sont handicapés suite à un accident avec une moissonneuse batteuse ou je sais pas quoi, font un périple jusque dans le nord pour aller voir la boîte qui a produit ces machines et leur faire un procès. C'est un peu le même principe quand même que Louise Michel, où on a de la même manière un road movie à pied, enfin avec des gens qui
c'est la dernière partie quand même qui est road movie.
Mais sauf point de départ du film n'est pas du tout le même quand même. C'est que
principe.
Ouais, mais justement le principe qui est quand même complètement différent, c'est que dans Altra, ils se foutent sur la gueule les deux abrutis et du coup ils se font mal et du coup ils décident d'aller retrouver le mec de la machine qui a fabriqué les machines pour l'inculper lui, alors qu'on sait très bien que c'est eux deux qui ont fait les cons et qui du coup tu te dis bon. Tandis que là quand même il y a un truc qui est évident, c'est que après tout dès le début tu sais que le patron mais quand même il mérite presque de crever quoi. Et qui du coup ça enlève carrément beaucoup de.
Mais s'il meurt à la fin.
Oui, il meurt.
Un peu plus complexe.
C'est
que
un
ça,
peu
quand
plus
même.
Complexe ça. Mais du coup ça enlève largement. Moi je trouve que c'est que ça enlève beaucoup de l'absurdité du film en fait. C'est l'absurdité qu'il y avait dans Altra est largement enlevée quoi.
Comment
ils écoutaient pas à côté donc.
Il disait que par rapport à Altra, où t'as deux abrutis qui se foutent sur la gueule et qui, à cause de ça, ont un accident à l'issue duquel ils restent handicapés, donc c'est une espèce de truc absurde, puisqu'ils vont quand même aller jusque dans le nord avec leur chaise roulante pour faire un procès à la boîte qui a fabriqué leur machine. Donc il y a déjà un truc un peu absurde, alors que là, on se dit que dans Louise Michel, c'est un truc qui pourrait arriver, que des ouvriers se mettent ensemble. D'ailleurs, on se demande dans quelle mesure le film ne le conseille pas, de se grouper pour faire buter le responsable de leur malheur, quoi.
Ouais. Ah ouais.
Bah je sais pas.
Non, ça tient quand même de l'absurdité, enfin cette espèce d'agent de sécurité
guignolesque
qui arrive pas à tuer un chien.
Que les deux personnages aient une ambiguïté sexuelle certaine.
Si, c'est marrant, parce que ça passe quand même tout. Quoi. Ça passe l'ambiguïté sexuelle, ça passe l'impossibilité de remplir son boulot.
Mais moi, je trouve
il y a la prison, il y a l'école, il y a le.
Moi, je trouve ça assez gênant.
Les paradis
fiscaux. Cette histoire d'ambiguïté sexuelle.
Oui, c'est un peu gadget en
voilà,
fait. Je sais pas trop à quoi ça sert.
Enfin,
moi, je suis d'accord.
En fait, ils nous embarquent sur deux fils de narration, quoi. Et je trouve ça assez ennuyeux, la scène finale, c'est quand même un peu lourdin, quoi. Vraiment, alors qu'au début, il nous emportait dans quelque chose d'assez lent, avec un cinéma très proche justement de celui de Kouris Maki, dont il s'inspire. Il y a une scène dans le camping, là, où ils sont perdus, en fait. Enfin, il est perdu, il l'emmène chez lui, mais il n'arrive pas à retrouver sa caravane au milieu des caravanes. Et donc, on a un plan fixe très serré entre deux caravanes, et on voit cette profondeur, là, de
caravane.
De caravane. Et on les voit passer, ah, c'est par là, mais ils discutent en même temps. Il y a une vraie intelligence dans cette façon de montrer ce qui se passe.
Mais tous les plans sont faits comme ça, par exemple. Tous les plans, il n'y en a pas un qui a un seul niveau, en fait. Ils sont tous avec des membres du
GIGN, enfin le pendant du GIGN anglais intervenir à côté d'eux pendant qu'ils dansent. C'est quand même moins bien fait, c'est moins intéressant. Enfin, je sais pas, à la fin du film. Ça va trop vite ou ils en font trop, je sais pas. Enfin, il y a un truc. On a plus. Finalement, ils posent leur caméra. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, le fait de construire des tableaux, on en parlait tout à l'heure. Mais je trouve que ça marche plus parce que ça parle. Ça dit plus rien.
Mais il y a un truc qu'ils maîtrisent dès le début. Ce qui est un truc qu'ils savent pas faire, c'est même s'ils ont beau maîtriser un cadre avec. Des super belles lignes, des actions qui se passent sur différents niveaux de plans dans leur cadre, ils savent pas du tout maîtriser la durée quoi. La moitié des plans, ils ont des durées un peu bâtardes qui s'enchaînent pas les unes aux autres et à la fin ça devient carrément casse-gueule où du coup les plans ils veulent plus rien dire et ils sont trop courts, trop longs, on sait pas et ça enchaîne à une rapidité folle quoi. Je comprends ce que tu veux dire là-dedans quoi. Mais moi ce que j'ai trouvé quand même assez réjouissant c'est qu'ils arrivent à raconter des trucs de fou en étant il y a un seul plan, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un seul plan où il y a une seule scène où il y a deux plans, c'est le moment où de bascule où ils décident de où Yolande Moreau, donc Louise, décide de leur proposer d'aller buter le patron, où t'as un contre-champ. Sinon, tout le reste du film, c'est que des plans fixes avec des niveaux à chaque fois qui sont ceux d'une opposition entre quelque chose. Où il y a quelque chose qui se passe au premier plan, qui est une action qui serait celle de, ben, je sais pas, peut-être de la caricature des milieux populaires ou d'un truc comme ça, ou qui c'est carrément Yolande Moreau, elle arrive à peine à articuler deux mots, sauf quand elle s'énerve pour défendre le prolétariat face au patron enfoiré, et l'autre abruti qui articule plein de choses mais qui est incapable de lever la main pour foutre une baffe quand il devrait. Et de l'autre côté, derrière, t'as toujours une autre chose, une action qui serait celle qui c'est possible de faire, ou qui est celle qui est pas forcément faite et qui est possible de faire. Et du coup, je trouvais ça assez marrant ce rapport-là entre les deux, à chaque fois dans les tableaux, d'avoir différentes profondeurs qui est tenu quand même. Même si tu vois à la fin, même s'il y a la danse et le GIGN, enfin c'est pas la fin ça. La danse et le GIGN, il y a quand même deux niveaux de ce genre de choses comme ça. Et je trouve que ça, ils ont réussi à le tenir sur une heure et demie. Je trouve que c'est, à part la fin où c'est, j'avoue que c'est un peu chiant, mais sinon tout ce processus là, moi je trouve qu'ils l'ont bien tenu. Et c'est assez étonnant d'avoir réussi à raconter des trucs là-dedans.
Ouais. Mmh. Moi je trouve qu'avec un. Je trouve ça dommage d'avoir fait un film comme ça. Enfin, qui a plus la. Enfin. Pour le coup, moi je trouve que ça fait vraiment téléfilm, quoi. Enfin, disons qu'on a l'impression qu'ils finalement ils ont dû renoncer à certaines choses, quoi. Enfin, j'ai l'impression que finalement ce film ils n'ont pas maîtrisé comme ils avaient cherché à maîtriser les deux premiers. Mmh. Voilà, c'est assez décevant, même si Avida est un peu en dessous de Altra. Enfin, voilà, il y avait un vrai parti pris, une vraie envie de faire un cinéma un peu différent, de. Voilà, quoi, d'avoir un autre discours, quoi, cinématographique. Et là, moi, je l'ai pas retrouvé. Je trouve ça, c'est plus classique, mais je crois qu'ils avaient prévenu par rapport à ça. Et je pense que ça doit être lié à la production.
Ouais, certainement. Ouais.
Voilà. Mais après, il y a un truc qui s'explique pas, c'est que le film a un succès ahurissant. Donc, le thème en lui-même est finalement très bien vu. Voilà, quoi. Ça attire vraiment les gens, cette idée de. Enfin, c'est un film qui est vraiment. Très bien ancré dans le contexte actuel.
Mais moi, je sais pas si vous, ouais, mais moi, je l'ai pas trouvé drôle, en fait. J'ai pas beaucoup ri, en fait.
Non, c'est pas très drôle.
Il y a même des scènes qui m'ont un peu remonté le bide, quoi. Alors que des scènes que j'ai trouvé super glauques, quoi.
Ouais, moi, je trouve que ça, des fois, ça veut être drôle et ça l'est pas. Et ça
mais moi, je me demande, s'ils ont cherché à être drôle par moment, quoi.
Bah, si, quand même. On est toujours dans une espèce de farce. Tu es un peu dans le gros.
Mais justement, je me demande si c'est farce, moi, en fait. Je me demande si c'est pas un truc, justement, les limites de.
Farce ouvrière.
Ben, ouais. Mais non, mais vraiment d'avoir osé un truc qu'on peut y aller jusqu'au bout et puis se dire que ces prolos, après tout, les prolos font des cités qui sont un peu ridicules et qui savent à peine articuler et qui ont envie a priori de, quand ils gagnent leurs indemnités, de faire des calendriers où elles sont à poil, et ben toi peuvent être ridicules aussi. Tu vois, ces gens-là, ils peuvent être ridicules et qu'on ose aussi caricaturer et les rendre peut-être un peu ridicules.
C'est pas de la caricature,
ouais,
ça.
Elles sont pas caricaturées.
C'est pas caricaturé, mais c'est peut-être grossier ou c'est peut-être moqueur, quoi, aussi. Moi, je trouve que, ouais. Et ça me déplaît pas d'avoir dosé, des fois aussi un peu ce. Je trouve pas ça consensuel du tout, en fait. Ou,
politiquement correct. Ça aurait pu se passer, tu vois. Enfin, la démolition du building dans lequel habite Louise Michel, par exemple. Enfin, Louise, du moins. Ouais. Voilà. C'est complètement inutile, quoi. Enfin, à part pour dire, oui, bon, elle est sans abri, il faut qu'elle aille dormir dans une caravane.
C'est juste pour le
gag, pour montrer Yolande Moreau devant un building en train d'être démoli, quoi. Et je ne comprends pas cette envie de. Enfin, cet humour-là ne me touche pas et je pense que c'est plus d'ordre de l'esbrouf, quoi, qu'autre chose, quoi, finalement. Et c'est en ça que je trouve que leur film perd de l'intégrité, enfin, n'a pas l'intégrité des deux premiers.
Ouais, je suis d'accord. On va écouter une dernière fois Isabelle avant de récapituler tout ça.
Vous voici donc arrivé à un instant que l'on peut qualifier de crucial. Cessez de vous gratter, décontractez-vous, respirez profondément, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Exposez franchement votre problème, vous savez bien que ce qui vous amène est une histoire de gros sous, vous gagnez 750 francs par mois et vous voudriez en gagner 7500. vous savez que ça va être difficile. Vous accepteriez de transiger à 785 francs par mois, plus une prime annuelle que vous souhaiteriez équivalente à 40 jours ouvrables pour payer les frais d'incubation. Vous savez aussi que votre chef de service voit clair dans votre jeu et qu'il sait pourquoi vous êtes en face de lui en train de vous ronger maladivement les ongles en cherchant vos mots. Vous savez qu'il sait que vous savez et il sait que vous savez qu'il savait que vous avez su, qu'il saurait que vous allez savoir. En d'autres termes, vous avez l'impression, d'ailleurs tout à fait juste, qu'il serait délicat, maladroit, dangereux d'aborder la question de but en blanc. Il faudrait que vous trouviez un prétexte. Il faudrait le convaincre, votre chef de service, que vous méritez cette augmentation. Par exemple, vous allez lui donner une idée que l'entreprise a qui vous de... vous allez lui donner une idée que l'entreprise à qui vous devez tout pourrait utiliser avec avantage. Vous avez réfléchi à la situation internationale, la concurrence se fait plus aiguë avec l'abaissement des droits de douane et l'application de ces foutus accords de Rome sur le marché commun dans un mois. Comment vendrons-nous l'expansion? C'est vous, participons, il en restera toujours quelque chose, plus l'on produit moins vite, moins l'on consomme plus lentement, et vice-versa, etc. Donc, même votre chef de service qui voit où vous voulez en venir vous arrête en vous demandant s'il s'agit d'une question T60 et de deux choses l'une. Ou il s'agit d'une question T60 ou il ne s'agit pas d'une question T60. Mais vous ne savez pas ce qu'est une question T60. Et je ne peux malheureusement pas vous aider, ne le sachant pas moi-même. Donc, vous répondez au hasard et évidemment, vous répondez qu'il s'agit effectivement d'une question T60. Mais, s'exclame alors votre chef de service, éclatant d'un rire vachement sardonique, mais s'il s'agit d'une question T60, cela n'entre pas dans mes attributions. Allez voir la section AD4, qui est la seule adéquate. Il ne vous reste plus qu'à vous lever, qu'à remercier votre chef de service pour le bon conseil qu'il vous a donné et à aller chercher la section AD4 que vous ne trouverez évidemment pas tout en méditant sur votre infortune. Voilà, nouvelle étape.
Encore raté.
Encore raté.
Caramba. Bon. Voilà. Très bien. On récapitule. Donc, on vient de parler de Louise Michel. Donc, les avis sont partagés sur Louise Michel, qui passe encore auditrice jusqu'au 20 janvier. Un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
Bah oui.
Et
allez le voir.
Allez le voir quand même, vous nous donnerez votre avis. Nous avons parlé, alors on a passé Hold Up de Tagada Jones sur l'album, je sais pas, Tagada Jones,
éponyme.
On a également parlé de Two Lovers de James Gray qui passe à, il y a pas si longtemps au Dietrich. Et on a passé un beau morceau de Herman Dune qui s'appelle My Home Is Nowhere Without You, et la lecture donc du livre
de Georges Perec, L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation,
a accompagné notre heure de On est là pour ça sur Radio Pulsar.
Et bonne année.
Et ouais, oui, et
finalement on n'a pas parlé de grand chose.
On n'a pas parlé de grand chose, ouais, mais bon, vraiment. On a bien.
Enfin, tu m'étonnes, c'est déjà fini.
Bah ouais, c'est déjà fini. On est arrivé un petit peu en retard quand même. Bah si, justement, je voulais quand même annoncer puisqu'il reste quelques minutes. Bah oui, mais vous avez trop parlé, je vous signale. Mais je vais passer. C'est ce que je voulais faire. Oh, c'est bon. Oui, je voulais quand même signaler qu'aujourd'hui sort le film Choron dernière, donc Auditrice, un film de Pierre Carl et Eric Martin. Je sais pas ce que vaut le film, je l'ai pas encore vu, n'empêche que c'est une bonne occasion de reparler du professeur Choron, donc qui fut un des fondateurs de Harakiri avec François Cavanna et un des fondateurs aussi de Charlie Hebdo Ancienne Manière. D'ailleurs, le film a un sous-titre, c'est Choron dernière, vie et mort du professeur Choron et de Charlie Hebdo. Donc on sent que les réalisateurs ont quelque chose à dire sur la nouvelle version de Charlie Hebdo.
Parti pris.
Voilà, ouais. Ouais. Comme d'habitude avec Pierre Carl d'ailleurs.
Oh bah oui, ça c'est un gars engagé.
Voilà. Voilà, et donc moi pour accompagner ça, je voulais passer une petite chanson de Choron. dire que voilà, bon après c'est moi je
bah,
ça reste
un Java Davis.
Oui.
Non. Du coup. Non, mais puisqu'on n'a pas parlé de ton livre. On peut écouter la pire chanson de professeur Cheron.
Comme vous,
on peut, la plus dégueulasse.
Allez, assez dégueulasse.
Oh, vas-y pour la plus dégueulasse, merde.
D'accord.
Pardon.
Et non, juste te dire que quand même c'était moi c'est quand même quelqu'un qui après bon il a eu.
A compté pour toi.
Oui, c'est quelqu'un qui a compté. C'est quelqu'un qui a compté pour moi. N'empêche que j'ai déjà parlé ici de Charlie Mansuel ou de Harakiri. Et c'est quand même des choses très importantes.
Pour toi.
Et, oui, pour moi en particulier. Et,
c'est pour ça que tu animeras la soirée mais samedi soir.
Oui, oh bah ça, je sais pas.
Pour toi.
Bon ben puisque vous êtes si sympa avec moi, je vais passer la chanson.
Parce qu'il y a une soirée samedi.
Il y a le réalisateur qui sera là.
Pierre Carl.
Non, pas Pierre Carl. Eric Martin.
Eric Martin, donc qui est aussi au départ en fait un dessinateur de presse qui a co-réalisé le film.
Il y a beaucoup c'est pour toi.
Bon allez, trêve de plaisanterie.
On peut rien te dire. T'es susceptible.
C'est la Java de l'inceste illicite, celle qu'on danse avec sa nièce, la petite. On s'approche à petits pas et on dit, suce tonton, c'est du nougat, garantie. Sans sucre ni colorant, le zizi ne fait pas tomber les dents des petits.
Maquisselle pour la jeunesse, la Java de tous les vices.
C'est la Java des homosexuels. Qu'on lance avec un travelot en dentelle. Et l'on tient son partenaire à l'envers, le pénis dans son derrière, un grand ouvert. Et on marche à petits pas, en cadence. Mettre sa verge dans le caca, porte chance.
Ah que c'est bon la javisse, la java de tous les vices.
C'est la java du plaisir solitaire, celle que danse avant de dormir, le Saint-Père. On se masturbe à petits pas, des 10 doigts, on éjacule à 10 pas, devant soi. Faire danser la veuve poignée, formidable, ne marche jamais sur les pieds de son mal.
Ah que c'est bon la javisse, la java de tous les vices.
Ne croyez pas qu'en laissant votre sperme dans la butte, vous l'avez payé.
Ah que c'est pour la javisse, la java de tous les vices.
C'est la java des lesbiennes, en chaleur, qui tortille de l'abdomen, sans pudeur. Une main dans la culotte, farfouilleuse, elle se caresse la motte, bien juteuse, elle pousse des petits cris,
hi hi hi,
à chaque fois que je jouis, le trou pipi.
Ah que c'est bon la java de tous les vices.
C'est la java des amants, masochistes, qui se fouettent jusqu'au sang. Et persiste jusqu'à temps que la douleur intensive se transforme en grand bonheur. Oh surprise, on arrête de danser.
Ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
Ce message n'est pas diffusé au dernier journal.